Mercredi 13 juin 2018, soyez les bienvenus à l'émission Le Quotidien des Quotidiens, Hélène Denis qui vous accompagne. Jean-Sébastien Laliberté, bonjour.
Hélène Denis, bonjour.
13 juin, est-ce que vous êtes superstitieux, vous?
Non, mais néanmoins, nous ne sommes pas vendredi 13.
Non, je sais, mais le mercredi 13, c'est encore pire.
Ah oui?
Oh. Non, c'est une invention pure.
Vous m'inquiétez.
Alors, vous êtes un peu plus superstitieux que vous ne le croyez peut-être. Allez-y avec les éphémérides, Jean-Sébastien.
13 juin, journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Cette absence de production de mélanine qui contribue à la protection des rayons UV ainsi qu'au développement du système nerveux visuel de la rétine. Donc, on parle, outre la dépigmentation partielle ou totale de la peau et des cheveux, on peut parler aussi de déficience visuelle et de difficulté à supporter la lumière avec ceux qui sont atteints d'albinisme, sans parler, bien sûr, des insultes et de la violence dont ils sont victimes un peu partout à travers le globe. Généralement, plus il y a une différence sur la couleur de la peau entre la teinte normale de la peau et l'albinisme. Donc, on peut penser en Afrique notamment, vu qu'il y a une grande différence.
C'est l'horreur.
C'est des violences verbales et physiques que ces gens-là vivent. Alors, petite pensée pour toutes les personnes qui sont atteintes d'albinisme. 13 juin dans l'histoire, en 1494, découverte de l'île de la Jeunesse par Christophe Colomb. 1502, Christophe Colomb débarque en Martinique. 1841, ouverture du premier parlement du Canada uni à Kingston, et non pas par Christophe Colomb. 1866, à Washington, le Congrès accorde théoriquement l'égalité des droits civils aux Noirs. Il faudra cependant attendre 101 ans, soit 1967, jour pour jour, avant que le président Lyndon Johnson nomme un premier Noir juge à la Cour suprême. Donc, un petit pas à la fois. 1884, au parc Coney Island de New York, inauguration des premières montagnes russes. 1886, une partie de Vancouver est ravagée par le feu. 1895, première course automobile Paris-Bordeaux-Paris. Toujours un 13 juin dans l'histoire, 1898, le Yukon est dissocié des territoires du Nord-Ouest pour former à son tour un territoire fédéral. 1900, en Chine, la révolte des boxeurs contre les colonisateurs occidentaux tourne aux violences généralisées. En 1910, un réservoir d'eau enfonce le toit et les planchers de tous les étages de l'immeuble abritant le quotidien Herald à Montréal, provoquant un incendie qui fera 32 victimes. 1917, deuxième apparition de la Vierge Marie à Fatima. 13 juin 1971, le New York Times publie des documents du Pentagone sur la véritable implication américaine dans la guerre du Vietnam. 1983, en croisant l'orbite de Neptune, Pioneer 10 devient le premier engin envoyé par l'homme au-delà du système solaire. 1985, la Cour suprême juge que la plupart des lois du Manitoba, rédigées en anglais seulement, sont inconstitutionnelles, ce qui fait penser un peu au dossier qu'on a eu récemment au Québec avec le barreau qui voulait faire infirmer une partie des lois qui n'étaient adoptées qu'en français. 1993, Kim Campbell devient la chef du Parti conservateur du Canada. Et de ce fait, première ministre du pays, première et seule femme à avoir occupé ce poste. 1998, le code téléphonique 450 entre en vigueur pour la région entourant l'île de Montréal. En 2005, accusé d'agression sexuelle sur des enfants, Michael Jackson est reconnu non coupable. 13 juin 2013, alors que les Nations Unies rendent public un bilan faisant état de 93 000 personnes tuées en Syrie depuis le début du soulèvement en mars 2011, les États-Unis affirment disposer de preuves concluantes montrant que le régime syrien a utilisé des armes chimiques contre les rebelles qui cherchent à le renverser. 13 juin, anniversaire de décès en 1986 du jazzman clarinettiste Benny Goodman et en l'an 323 avant Jésus-Christ, le conquérant macédonien Alexandre le Grand. Et c'est déjà tout.
Rien de moins, Alexandre le Grand. Merci Jean-Sébastien.
Grand plaisir.
À la une de la presse plus, de l'arsenic au menu. Des analyses faites à la demande de la presse confirment que l'arsenic est présent dans de nombreux produits achetés au Québec, parfois en quantité élevée. Comment éviter de consommer ce contaminant? Pourquoi le quotient intellectuel baisse-t-il en Occident? Kim s'impose, Trump consent. grimper dans son salon ou comment des mordus d'escalade pratiquent leur sport favori à la maison. Arsenic, le mot fait frémir, évoque un mystérieux poison. Pourtant, de nombreux aliments courants et offerts partout en contiennent. Des tests faits pour la presse par un laboratoire privé révèlent que des céréales de riz soufflées bio, achetées dans une boutique d'aliments santé, contiennent jusqu'à 490 microgrammes d'arsenic par kilogramme, ce qui est très élevé. Mais avec l'arsenic, c'est la roulette russe. Une même marque de céréales peut en contenir beaucoup dans un lot, et peu dans l'autre, puisqu'il s'agit d'un contaminant naturel dont la concentration varie grandement. Notre démarche n'était pas de cibler un fabricant, mais de démontrer que dans certaines catégories d'aliments, on ne peut l'éviter, et c'est le cas. Santé Canada vient d'adopter une nouvelle réglementation concernant l'arsenic. Depuis le 14 mai, l'eau vendue en bouteille ne devra pas en contenir plus de 0,01 ppm ou 10 microgrammes par litre. C'est la concentration permise dans l'eau potable. Si on accepte 10 pour l'eau, il n'y a pas de raison que l'on soit plus permissif dans le riz, estime Sébastien Sauvé, vice-doyen à la recherche et à la création de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Autour de 100 et 200 microgrammes, ça commence à être un peu inquiétant, estime ce spécialiste des métaux lourds dans l'alimentation. Alors, un peu plus loin, on nous dit... D'où vient l'arsenic? On essaie de répondre à cette question. On répond à cette question. On a tous en tête, le pudding à l'arsenic servi à Astérix et Obélix, ce qui n'avait pas donné les résultats escomptés par ailleurs. L'image fait croire que l'arsenic est un rare poison. C'est loin d'être le cas. L'arsenic est présent dans les roches, les sols et l'eau souterraine. Il se trouve donc aussi dans les produits qui poussent dans le sol. L'arsenic n'a ni goût ni odeur. Dans un même pays, la quantité d'arsenic peut varier d'une région à l'autre. Par exemple, le magazine américain Consumer Reports a calculé en 2014 que le riz de Californie contenait en moyenne 38 % moins d'arsenic que l'ensemble des riz américains. Organique, l'arsenic organique moins toxique est principalement présent dans les poissons et les fruits de mer. L'arsenic inorganique se trouve dans les sols, les sédiments et l'eau souterraine. C'est celui que l'on redoute car il est plus toxique que l'arsenic de la mer. Comment l'éviter? C'est le premier conseil de tous les nutritionnistes, c'est-à-dire manger varié. En optant pour une alimentation variée, on évite de trop consommer d'éléments indésirables, que ce soit le mercure du poisson ou l'arsenic du riz. Avec la popularité des diètes sans gluten, plusieurs personnes se tournent vers des produits à base de riz. Le millet et le quinoa, pour ne nommer qu'eux, contiennent beaucoup moins d'arsenic et font d'excellents plats de salade ou de sauté. Varier aussi vos jus, recommande le site Arsenic and You de l'Université Dartmouth. Et rincer son riz. Environ la moitié de l'arsenic disparaît lorsque l'on rince le riz et que l'on utilise de l'eau qui contient peu d'arsenic, a calculé une étude indienne de 2006 de l'Université de Jadavpur. Et un peu plus loin, on nous parle des effets des métaux lourds et il est question de diabète, aussi de cancer. Si certains effets de l'arsenic se font sentir rapidement, d'autres conséquences de la toxicité se calculent à plus long terme. L'exposition à long terme, pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, à des concentrations élevées d'arsenic inorganique contribue au risque de développer certains cancers chez l'humain et peut affecter le tractus gastro-intestinal, les reins, le foie, les poumons et l'épiderme, estime Santé Canada. Pourquoi le quotient intellectuel baisse-t-il en Occident? Alors, selon des chercheurs et des auteurs, ce sont les mêmes personnes qui ont publié une étude lundi dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Ce sont des chercheurs norvégiens. La baisse du quotient intellectuel s'expliquerait par une baisse de la qualité du système scolaire, par une éducation moins rigoureuse à la maison, ou par des facteurs de santé, moins bonne alimentation, moins d'exercice, exposition aux polluants. Je commencerai par examiner l'éducation, puisqu'il y a de fortes indications que l'éducation de masse a des effets causaux sur le QI d'une population a expliqué en entrevue à la presse Ole Rogeberg, chercheur en éducation à Oslo et l'un des auteurs de l'étude. Alors, Ole Rogeberg précise toutefois qu'il s'agit d'une intuition personnelle. L'école est aussi le premier facteur mentionné par Serge Larrivé pour expliquer notre baisse d'intelligence collective. L'école ne tolère plus l'échec sous prétexte que ça brime l'estime des enfants. C'est de la niaiserie. L'intelligence progresse quand on a des problèmes à résoudre. Alors, Serge Larrivé, lui, est de l'Université de Montréal. Une ex-collègue de Valérie Bertrand Desrochers chez Urgence Santé répond aux internautes qui se sont réjouis de sa mort. « Parfait, un cycliste de moins sur la route. Les cyclistes, c'est une plaie. » Quand elle a lu ses commentaires sur la page Facebook d'un grand média, Annie Terrien a vu rouge, comme chaque fois qu'un cycliste est happé mortellement au Québec. Une poignée d'internautes s'en réjouissaient en ligne. « J'étais tellement outrée par la nature des commentaires que je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose. » explique en entrevue la blogueuse Annie Terrien, qui a elle-même travaillé chez Urgence Santé jusqu'en février. Le résultat est un texte à la fois acerbe et bouleversant, adressé aux trolls qui se sont félicités de la mort de Valérie Bertrand Desrochers, à coups d'émoticônes pleurant de rire sur Facebook. « Quand je lis les commentaires foudroyants de pertinence, écrit Annie Terrien, on dirait que tu l'oublies que c'est quelqu'un. On dirait que tu l'oublies qu'il y a des gens qui sont en train de se texter partout pour savoir si c'est vraiment elle. » On dirait que tu l'oublies qu'il y a un père et une mère qui sont en train de se faire annoncer que leur fille est décédée. Et on dirait que tu l'oublies que pendant que tu ris, il y a des gens qui shake par en dedans à la vue du drap, en dessous duquel repose un corps sans vie. Peut-être que ça ne te fait rien aussi parce que tu n'as jamais vu son visage qui sourit, son visage exaspéré ou son visage épuisé après un appel d'urgence. Vérification des entreprises par l'AMF et l'UPAC, le stratagème entre guillemets allégué par Annie Trudel n'a jamais existé, conclut la VG. Les allégations de la lanceuse d'alerte Annie Trudel sur un système de collusion et de corruption touchant les entreprises qui voulaient être accréditées par l'Autorité des marchés financiers ne sont absolument pas fondées. C'est le verdict sans appel auquel en arrive après 8 mois d'enquête la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, qui l'automne dernier avait eu le mandat d'examiner les dénonciations de Mme Trudel. La mort violente et inexpliquée d'une jeune femme de Victoriaville à son domicile de Coudjouac sème l'inquiétude dans la communauté, notamment parmi les travailleurs du sud du Québec au Nunavik. Chloé Labrie, 28 ans, a été retrouvée sans vie dans la nuit de lundi à hier, avec une blessure par balle à la tête. Travailleuse de la santé apparemment sans histoire, elle occupait un poste à l'hôpital local. Au moment de publier, aucune arrestation n'avait été effectuée dans ce dossier et les policiers étudiaient toujours toutes les hypothèses. L'un des plus importants marchés publics de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, a été la proie des flammes pendant la nuit de lundi à hier. Des dizaines de pompiers et au moins 5 camions ont été appelés à combattre le brasier, selon le journal local Le Nouvelliste, pas celui de Trois-Rivières, mais celui d'Haïti. Il s'agit du 3e incendie dans un marché public de Port-au-Prince depuis février. Aussitôt l'incendie maîtrisé, des marchands ont fouillé les décombres à la recherche de nourriture qui aurait été épargnée. Un vendeur ne peut que constater la destruction de ses stocks de moutarde. Il y a une photo et il y a beaucoup, beaucoup de jaune moutarde, évidemment, sur cette photo. L'incendie se serait déclenché autour de 22h30 lundi soir. L'origine du brasier n'a toujours pas été déterminée par les autorités.
Genoux de mercure au chrome dans ma cabane découpée dans le styrofoam. Perdu mon couteau de poche, tant pis, Moma l'a caché au fond de sa sacoche. Et vouloir devenir un homme, et puis courir parce qu'on a volé trop de pommes. De fouler mes poches et de passer la journée à tirer des roches. C'est écrit dans un vieux cahier Canada où je retourne quand c'est gris. Dans un vieux cahier Canada. On va chez mamie où la bienvenue s'étend au-delà du tapis. Pour Noël pis toute la patente, et moi couché au creux des manteaux de ma tante. Couché au creux des manteaux de ma tante. C'est écrit dans un vieux cahier Canada où je retourne quand c'est gris. Dans un vieux cahier Canada. Dans un vieux cahier Canada où je retourne quand c'est gris. Dans un vieux cahier Canada.
On reste dans une programmation musicale axée sur les artistes des francopholies. Demain à 21h à la place des festivals, vous pourrez voir Patrice Michaud, qu'on vient d'entendre avec la pièce Cahier Canada, extrait de son premier album, Le Triangle des Bermudes.
À la une du Devoir, Couillard en scène sa politique culturelle. Couillard met en scène sa politique culturelle. Et on a une photo de M. Couillard et de la ministre de la Culture, Marie Montpetit. Le premier ministre et sa ministre, Marie Montpetit, ont présenté la politique culturelle du Québec hier. Le gouvernement présente le document comme une proposition libérale. Commerce, la mondialisation sera plus forte que Trump. Le président américain est incapable de fonctionner dans un système multilatéral, explique Pascal Lamy, ex-patron de l'OMC. Cannabis, rien ne sert de faire peur, il faut renseigner. La prévention en matière de consommation devra s'ajuster au nouveau contexte, disent les experts. Actualité, la CAQ maintient son emprise sur la première place. Monde, accord flou pour un sommet historique Trump-Kim. Sport, l'orgueil italien froissé au soccer. Le premier ministre Couillard s'est chargé lui-même de présenter mardi la nouvelle politique culturelle du gouvernement comme un enjeu de campagne électorale. Le document sera ainsi la mesure étalon pour jauger de l'intérêt que les différents partis portent à la culture, estime Philippe Couillard. 26 ans plus tard, le Québec a aujourd'hui une nouvelle politique culturelle dévoilée mardi devant les principaux intervenants du milieu. Mais cette politique de 4 orientations, 41 mesures et quelques 600 millions prévus dans le plan d'action pourrait bien être réécrite dans quelques mois. Rien ne garantit en effet que sa vision et ses intentions survivront à la prochaine campagne électorale. Selon Philippe Couillard, si la politique n'apparaît pas dans le cadre financier d'un des partis, vous pourrez conclure dans leur niveau d'engagement par rapport au milieu culturel. Dans son allocution de présentation, la ministre de la Culture, Marie Montpetit, a pour sa part situé la politique culturelle dans un sillon libéral. La politique d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de toutes les actions prises par les gouvernements libéraux pour la culture, a-t-elle affirmé. On ne le dit pas assez, le Parti libéral a été le plus ardent défenseur de la culture québécoise. Parmi les lignes de fond de la politique, la ministre a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les conditions socio-économiques des artistes professionnels. De même, un investissement substantiel, 65,6 millions, est prévu pour créer une nouvelle alliance entre la culture, l'éducation et la famille. L'idée, mettre le plus tôt les jeunes Québécois en contact avec des activités culturelles, et cela partout au Québec. Andrew Scheer retire Maxime Bernier de son cabinet fantôme. Le chef du Parti conservateur a indiqué mardi avoir retiré Maxime Bernier du cabinet fantôme de l'opposition officielle en vigueur immédiatement. Le ministre du cabinet fantôme, responsable des sciences, Matt Genereau, assumera le rôle additionnel de porte-parole responsable de l'innovation, des sciences et du développement économique, de façon intérimaire, a indiqué M. Scheer dans un bref communiqué. Le chef conservateur n'explique pas sa décision. M. Bernier a récemment publié sur son site Internet le chapitre qu'il a rédigé et qui devait faire partie d'un livre à paraître cet automne et qui portait sur la nécessité d'abolir les gestions de l'offre pour les produits laitiers, les œufs et la volaille. Rosemont, un climat de terreur, problème de gouvernance, d'hygiène et de salubrité, d'intimidation. Soupçonné de maltraitance envers les personnes âgées, le Carrefour Rosemont, aussi appelé le Centre des aînés de l'Asie du Sud-Est, a accumulé une série de problèmes pendant de nombreuses années, sans que la situation puisse jamais être réglée dans sa totalité. La ministre responsable de l'habitation, Lise Thériault, a déposé un projet de loi pour permettre à la Société d'habitation du Québec d'agir dans les cas de fautes graves commises par des OSBL comme le Carrefour Rosemont, où elle juge qu'il y a de l'abus de pouvoir et que les gens vivent dans un climat de terreur. Aussi, dit Martin Blanchard du comité qui s'appelle le Comité logement de la petite patrie, il dit « Je pense qu'on peut définir la situation comme une maltraitance de personnes aînées. Ce sont des personnes malentendantes, aveugles, qui ont des problèmes de mobilité et des problèmes d'isolement social. » J'ai rencontré les locataires à quelques reprises et j'ai entendu des témoignages troublants de gens auxquels on menace de retirer les soins à domicile s'ils portent plainte, a dit Gabriel Nadeau-Dubois, député de Québec solidaire dans la circonscription de Gouin, où est situé le Carrefour Rosemont. Mais Dame, la fondatrice et directrice de l'endroit, jusqu'à tout récemment, nie catégoriquement toutes ces allégations. Tout ça, c'est du mensonge. Nous avons des preuves. Les fédérations sportives devront se doter d'un plan d'action pour prévenir les agressions physiques, psychologiques, émotionnelles et sexuelles, à défaut de quoi le gouvernement du Québec leur coupera les vivres, avertit le ministre Sébastien Proulx. Il pose également comme nouvelle condition à l'obtention de subventions gouvernementales la tenue d'une formation obligatoire ainsi que l'élaboration d'un processus de traitement des plaintes indépendant. C'est nécessaire de mettre des mesures coercitives pour s'assurer que ça se fasse, a-t-il plaidé mardi, entouré des athlètes Geneviève Simard, Gail Kelly, Anna Pierschall et Émilie Cousineau. Les élus de l'Assemblée nationale ont demandé d'une seule voix au gouvernement de passer de la parole aux actes d'ici 2020. « Le gouvernement du Québec réclame un soutien financier du gouvernement fédéral afin de venir en aide aux pêcheurs gaspésiens touchés par les fermetures de zones de pêche pour protéger les baleines noires présentes dans le golfe du Saint-Laurent. Dans un contexte où la pêche à ce crustacé doit durer encore 3 semaines au large de la Gaspésie, les pêcheurs de homards de la région redoutent des impacts majeurs pour leur saison de pêche. Même chose pour les usines qui transforment la ressource dans la région où le homard constitue un pilier de l'économie. Laurent Lessard croit en outre qu'Ottawa doit travailler à développer des mesures plus pointues et donc plus restreintes pour protéger les baleines noires. On a les moyens technologiques pour suivre les baleines et les moyens technologiques pour suivre les bateaux, selon lui. Interpellé à Ottawa mardi, le ministre Leblanc a dit que le gouvernement fédéral est sensible à la situation, tout en promettant de travailler avec les provinces touchées par les mesures qui limitent les activités de pêche. Ce sera République de Macédoine du Nord, Athènes et Skopje sont finalement arrivés mardi à un accord sur le nom de la Macédoine après une querelle de 27 ans rendant possible un déblocage de l'adhésion de la petite ex-république yougoslave à l'UE et à l'OTAN. Au terme d'un marathon diplomatique entamé l'an dernier qui a été conclu lundi et mardi lors de 2 entretiens téléphoniques, les premiers ministres Alexis Tsipras et Zoran Zaev ont pu annoncer l'accord au centre duquel se trouve le nouveau nom. Skopje accepte de modifier sa constitution en échange de la possibilité de garder le nom de Macédoine assorti d'une référence géographique. Depuis l'indépendance de l'ancienne République yougoslave en 1991, la question du nom de la Macédoine a été un âpre sujet de discussion. Le gouvernement Couillard recommandera la nomination de l'actuel inspecteur général de Montréal, Denis Galland, à la tête de la future autorité des marchés publics. Selon des sources, la candidature du procureur en chef adjoint de la commission Charbonneau sera soumise cette semaine à l'Assemblée nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est l'émission Revue de presse de Canal M, la radio de Vues et Voix, et c'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce mercredi 13 juin 1998, plus plusieurs années. 2018, franchement, c'est le 13 qui fait pas mon affaire.
Ce parfum que le vent dépêche, on dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en, mon cœur, mon cœur. Est un pendule, mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à nos trousses. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Viens vite, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe.
Ginger. Nous serons loin d'ici dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Son littéraire du groupe rock français Feu Chatterton, ils seront au MTELUS ce soir à 21h. On vient d'ailleurs d'entendre leur plus récent extrait, Ginger.
À la une du Journal de Montréal, CAQ, la CAQ en route vers une majorité, le PLQ isolé à Montréal et en Outaouais, le PQ en danger de disparition, EQS fait du surplace, comité, ou plutôt comté par comté, projection électorale 2018, 9 pages de cartes, données et textes. Les caquistes s'imposent. Le parti de François Legault se dirige vers un gouvernement majoritaire. La vague caquiste qui prend de l'ampleur dans l'électorat québécois emporterait au passage plusieurs ministres libéraux et laisserait des miettes au Parti québécois. François Legault serait à la tête d'un gouvernement caquiste majoritaire avec 83 députés si des élections avaient lieu aujourd'hui, révèle une projection de la répartition des sièges réalisée par l'analyste Brian Brigitt à partir d'un sondage LCN léger mené auprès de 3234 répondants. Seules 2 forteresses libérales tiennent encore, Montréal et l'Outaouais. Les caquistes bénéficient de 37 % de l'appui populaire, une hausse de 2 points depuis le mois dernier. L'écart demeure toutefois stable avec le Parti libéral du Québec, 28 % qui a aussi connu une légère augmentation dans les intentions de vote depuis la mi-mai. L'appui aux péquistes continue de dégringoler, 19 %. À partir de ces données, Brian Brigitt calcule que le clan de Philippe Couillard serait renvoyé dans l'opposition avec 33 députés et serait amputé de la majorité de ses ministres. Rien ne va plus au PQ, qui ne serait même plus reconnu comme un parti politique à l'Assemblée nationale avec seulement 5 élus. Les troupes de Jean-François Lisée sont même délogées dans leur château fort en région. Québec solidaire maintient ses acquis et réussirait à dérober un siège aux péquistes, celui d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. S'il y avait une soirée électorale aujourd'hui, c'est la razzia. C'est comme l'eau qui monte. Quand elle monte partout, analyse le sondeur Jean-Marc Léger. Qui est Brian Brigitt ou Breguet, B-R-E-G-U-E-T, détenteur d'un bac en politique et économie de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en économie de l'Université de Montréal? Il est l'analyste qui a fondé le site de projection de données de sondage « Too close to call » si la tendance se maintient.ca en 2011. Lors de l'élection provinciale de 2014, il avait prédit correctement l'issue du vote dans 106 comtés sur 125 et l'élection d'un gouvernement libéral majoritaire. Plus récemment, il avait prévu la victoire des conservateurs en Ontario, malgré une remontée des néo-démocrates. Il avait alors prédit avec succès le résultat de 110 circonscriptions sur 124. Retraite moins dorée pour le chef du gang de l'âge d'or. L'État va revendre 8 propriétés saisies au trafiquant de drogue Bruno Varin. Le chef d'un réseau de trafiquants de drogue surnommé le gang de l'âge d'or vient de se faire confisquer d'une petite fortune en propriété acquise avec de l'argent sale. Bruno Varin, 70 ans, a été dépouillé de 4 immeubles et d'autant de terrains d'une valeur totale de 1,9 million de dollars que la procureure générale du Québec s'apprête à revendre aux plus offrants. Le récidiviste montréalais qui purge une peine de 10 ans et demi de pénitencier depuis juin 2017 a récemment admis que ses biens constituaient des produits de la criminalité et a consenti à leur confiscation définitive. On compte notamment 2 immeubles à logement situés dans le quartier Villemar, un chalet dans les Laurentides et des terrains vacants à Châteauguay. La police avait aussi arrêté la conjointe et le fils de Bruno Varin dans cette affaire. Jean-Sébastien Varin a écopé de 46 mois d'incarcération, tandis que la poursuite a abandonné les accusations contre Nicole Desrosiers le jour où son mari s'est avoué coupable de complot, trafic de stupéfiants et gangstérisme. Le gouvernement Couillard a adopté hier la loi sur l'encadrement de la légalisation du cannabis avec l'appui de Québec solidaire, tandis que le PQ et la CAQ s'y sont opposés. Plus tôt en matinée, la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, avait d'ailleurs dénoncé les petits égos puis les games politiques qui ont motivé l'opposition du PQ, selon elle. Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a expliqué peu avant le vote que son parti est contre la possibilité de fumer de la marijuana sur la voie publique prévue dans le projet de loi. De la même façon, le parti souhaitait que la production québécoise de cannabis soit gérée par le gouvernement québécois et non par le fédéral. La CAQ, elle, avait annoncé de longue date son opposition à la pièce législative. Les troupes de François Legault souhaitent notamment que l'âge légal de consommation soit établi à 21 ans. Moins de champs de fraises à cause du coût des employés. Des agriculteurs québécois sont forcés de cultiver moins de fraises et de framboises en raison de la hausse du salaire minimum en plus de couper dans le personnel. L'augmentation du salaire minimum de 10,75 $ à 12 $ en 2 ans au Québec met un poids considérable sur les agriculteurs. La production de fraises et de framboises nécessite beaucoup de main-d'œuvre, notamment pour la plantation, le désherbage et la récolte des fruits. Cette décision de plusieurs agriculteurs ne devrait pas influencer le prix des petits fruits pour le consommateur puisque la Californie livre une forte concurrence, même en plein cœur de la saison estivale. Ce qui fait que les producteurs ne peuvent pas augmenter le prix de leurs produits sans perdre leurs clients. Cependant, à long terme, il pourrait y avoir moins de fameux petits fruits rouges québécois sur les tables puisque des fermes pourraient abandonner la production. Les producteurs demandent au gouvernement de leur verser un crédit d'impôt afin d'atténuer les effets de l'augmentation du salaire minimum. L'équipe de filature de la SQ avait l'air d'enrager du volant. Des automobilistes ont été choqués par leur conduite en février 2014. Des automobilistes qui ont croisé la route d'une équipe de filature de la Sûreté du Québec dont un agent est accusé d'avoir causé la mort d'un enfant ont cru que les policiers étaient des enragés du volant faisant une course. Les policiers devaient suivre ses déplacements, les déplacements donc de Robert Parent, un ex-directeur du Parti libéral du Québec, pour une enquête de l'unité permanente anticorruption concernant le financement politique. Le policier Ouellet, 34 ans, subit actuellement son procès pour conduite dangereuse ayant causé la mort du petit Nicolas Thorne Velance, 5 ans. Hier, Mélanie Ménard a raconté au juge Éric Simard avoir été dépassée par la droite par une Toyota noire très propre qui circulait à haute vitesse. La dame allait reconduire ses 3 enfants à l'école peu avant 8 heures. « Mon véhicule a bougé tellement c'était prêt et rapide », a décrit la mère de famille au palais de justice de Longueuil. Un couple de touristes australiens d'une trentaine d'années a trouvé la mort en tombant d'un mur qui surplombe une plage dans les environs de Lisbonne en essayant probablement de se prendre un égo-portrait, a-t-on appris hier auprès de services de secours. Tout semble indiquer que la chute s'est produite alors qu'ils tentaient vraisemblablement de prendre un selfie, a indiqué le commandant de la capitainerie, Rui Pereira de Terra. Il semble qu'ils aient laissé tomber leur téléphone portable et qu'ils soient tombés en se penchant pour essayer de le ramasser. L'accident s'est produit sur la plage Dos Pescadores. Cette plage, abritée par une baie rocheuse, est surplombée par un mur de près de 40 mètres de hauteur.
Sans assistance, un enfant qui vit dans l'indépendance. Pour grandir, je m'étirais en me retirant, et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Héréditaire, ma famille c'est une bande solitaire. Depuis plus de 5 générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul.
Thank you.
À 20h ce soir, Damien Robitaille sera au Francofolie sur la scène extérieure Loto-Québec. On vient d'entendre un de ses premiers succès, Homme autonome, tiré de l'album du même nom, paru en 2009.
Les journaux régionaux dans le droit, sous la plume de Louis Denis Ebacher, impatiente pour sa pizza, elle compose le 911. Une scène surréaliste s'est produite lundi dans le canton de Rideau Lakes, dans l'Est ontarien. Une cliente en colère a composé le 911 pour se plaindre que sa pizza n'arrivait pas assez vite. Pour ainsi transformer l'adage, disons que la fin justifie les moyens. C'est bien vrai, confirme le constable, la constable Sandra Barr du détachement de Rideau Lakes de la province de la police provinciale de l'Ontario, PPO. Ce n'est pas une blague. Les autorités prennent l'affaire avec un grain de sel, mais rappellent au public que le 911 est de toute évidence un service réservé aux urgences. Il était 21 heures lorsque la centrale de répartition a reçu l'appel de cette citoyenne affamée et à bout de patience. La PPO a reçu un appel concernant une femme de 32 ans qui sortait d'un restaurant de la communauté d'Elgin, comté de Leeds, mentionne la constable Barr. Elle demandait l'assistance de la police parce que sa pizza n'était pas prête. Du propre aveu de la policière, cette situation est pour le moins inhabituelle. Dans n'importe quelle région, il arrive que certaines personnes composent le 911 par erreur. Il peut s'agir par exemple du déclenchement accidentel de la fonction appel d'urgence sur un cellulaire se trouvant dans une poche de pantalon. Il arrive parfois qu'on reçoive des appels d'enfants qui jouent avec le téléphone. Mais la pizza, c'est assez spécial, poursuit la constable. Un appel au 911 rend presque automatique l'intervention d'un agent sur place. C'est ce qui est arrivé lundi, poursuit la constable Barr. Il a fallu se rendre sur les lieux par mesure de précaution. Cela a monopolisé deux agents pendant au moins une heure. Les policiers dépêchés sur les lieux se sont entretenus avec la femme, alors assise dans sa voiture. La plaignante attendait tout bonnement les policiers pour leur faire part de son mécontentement envers le restaurant. Les policiers ont fait de la sensibilisation auprès de la dame pour lui expliquer les bonnes façons d'utiliser le 911, dit la constable Barr. Le sergent d'état-major Josh Kingsley a pris la parole publique à son tour pour réitérer le rôle du 911. Pour une vie en danger, un danger imminent ou signaler un crime en temps réel, c'est à ce moment que vous appelez le 911, écrit-il dans un communiqué. Les autorités ignorent si le restaurant a finalement livré la pizza à la cliente en colère. Bien triste nouvelle, l'ex-député néo-démocrate fédéral Paul DeWaar a révélé que son cancer du cerveau est au stade terminal. M. DeWaar, qui a représenté la circonscription d'Ottawa-Centre de 2006 à 2015, avait annoncé en février qu'il suivait un traitement pour une tumeur au cerveau, mais il n'avait pas donné de détails à l'époque sur son pronostic. Il révèle maintenant qu'il a été diagnostiqué d'un glioblastome terminal de stade 4, le même type de cancer qu'avait emporté le chanteur des Tragically Hip, Gord Downie. La chronique de Mylène Moisan intitulée « Les mots qui lient ». Caroline, Hélène et Sophie ont eu une idée comme ça pendant une formation sur les activités sociales pour les aînés. Écrire un roman collectif. Caroline Berger, Hélène Fontaine et Sophie Perron ne sont pas écrivaines. Elles sont enseignantes au Centre Louis-Joliette pour le programme Soyons alertes, une classe mobile qui se déplace dans des résidences. Et comme bien des profs, elles cherchent des projets pour leurs élèves. L'idée du roman est venue au printemps. Elle a mûri pendant l'été. On n'arrête pas de penser à nos élèves, confirme Caroline. À la rentrée, elles étaient toutes emballées de proposer ce projet aux élèves des trois résidences où elles enseignent. Elles avaient un plan sommaire, établi une rotation entre les groupes. Une histoire écrite comme un cadavre exquis avec des dizaines de mains, des dizaines de têtes. Des gens qui n'avaient jamais fait ça. Quand la prof nous a présenté le projet, on était réticents. On n'était pas plus emballés qu'il faut, avoue candidement Françoise Pelletier, qui a mis la main à la pâte. Elle était dans le premier groupe qui devait planter le décor, inventer les personnages, donner le départ à l'histoire. Il a fallu qu'ils s'entendent sur les noms, sur tout. Tout le monde n'était pas toujours d'accord, lance Monique Isabelle en riant. Elles n'ont pas toujours ri. En fait, elles ont trouvé ça difficile. Trouver des idées, les écrire, suivre le fil, garder le rythme de l'histoire, s'assurer de ne pas échapper de personnages en cours de route. Il fait quoi déjà, Médée? Et le beau Silvio? Les trois groupes ont décrit le roman en 18 semaines, à raison de 6 étapes de 3 semaines, 2 fois par résidence. Chaque fois, les élèves devaient reprendre l'histoire où elle était rendue, sans changer un mot de ce qui avait été écrit avant, même si on aurait peut-être fait ça différemment. Il a fallu accepter. Françoise, Monique et Françoise Brouillette, à qui j'ai parlé aussi, se sont retroussés les manches avec les autres personnes du groupe, presque une vingtaine d'élèves en tout. On se rencontrait des après-midi en dehors des cours pour faire avancer l'histoire, pour trouver des idées. Ils l'ont fait aussi pour ne pas décevoir leurs profs, si vous voulez mon idée. Mais ils l'ont fait. Et c'est là que ça devient intéressant. L'histoire de Gisèle, de Rosanna et de tous les personnages de La Rencontre, c'est le titre du roman, a donné une autre histoire, une vraie, qui pourrait s'appeler La Rencontre aussi. C'est l'histoire de voisins qui ont commencé à se voisiner. Ils avaient un prétexte pour se voir, écrire. On s'est mis à se côtoyer, m'explique Françoise Brouillette. On prenait des cafés ensemble. Sans le livre, ça ne serait pas arrivé. Je trouve cette histoire-là plus belle encore. Celle des mots qui lient. L-I-L-I-E-N-T. Parce que ce n'est pas parce qu'on débarque dans une résidence qu'on se fait automatiquement des amis. C'était facile à la petite école. Ça l'est moins maintenant. On est loin de l'enfance et de son élan naturel vers l'autre. On a vieilli, on a ses habitudes. Et tout d'un coup arrive un projet qui force le rapprochement, la discussion, l'entente, le compromis. Et de tout ça, des amitiés ont émergé. La prof, Caroline, en a été témoin. Elle en a glissé un mot lors du lancement officiel du roman lundi au Centre Louis-Joliette. Il a d'abord fallu convaincre les personnes d'accepter de sortir de leur zone de confort. Ce n'était pas évident. Le projet que nous avons réalisé est d'abord un projet humain. Des liens se sont créés, des gens se sont vus en dehors des classes. Ça ne se faisait pas avant. Et pour la première fois lundi, les trois groupes étaient réunis. Ils avaient tous comme point commun d'avoir écrit un livre, ensemble. Il fallait voir comment ils étaient fiers. On avait attendu ce moment pour leur donner le livre qu'ils n'avaient pas vu avant. Les profs les ont distribués à leurs élèves en les félicitant pour le travail accompli. Les élèves leur ont dit merci, merci de les avoir poussés à se dépasser. Il n'y a pas d'âge pour ça. Une dame a pris le livre dans ses mains, l'a porté à son visage, a fermé les yeux. Elle a pris une grande inspiration. Il sent bon. La fierté sent le papier frais sorti de l'imprimeur. Chaque auteur a reçu son exemplaire, certains en avaient demandé un de plus pour donner en cadeau. Et c'est tout. La rencontre ne sera pas disponible en librairie, aucune réimpression n'est prévue. Plusieurs le lègueront à leurs enfants, leurs petits-enfants, leur disant que tout est possible. Le livre commence par une série de dédicaces, des remerciements aux enseignants, des mots pour les petits, comme ceux de Bérangère Fortin. « À mes beaux jeunes, une partie de votre grand-mère est dans ce récit. » Et ceux de Monique Trottier. « Je dédie ce roman à ma petite-fille Alex Sandrine, que j'aime beaucoup. » Monique n'était pas au lancement, elle est partie quelques heures avant, laissant une partie d'elle dans un roman. Et pour terminer, dans la tribune Claude Plante, Jacob Hamel, un jeune Sherbrookois de 11 ans, rêve de devenir magicien de rue à Sherbrooke, comme il le fait dans le Vieux-Québec devant les touristes. Ce membre du Club de magie du Québec et détenteur d'un permis d'amuseur public à Québec s'est présenté récemment devant les membres du conseil municipal de Sherbrooke pour faire sa demande de permis. Il aura même réalisé un tour de magie pour prouver le sérieux de sa démarche. Mon intervention m'a permis d'obtenir le droit de faire de la magie de rue dans Sherbrooke, alors que le règlement de la ville me l'interdisait jusqu'à maintenant à cause de mon âge, a-t-il réagi après son intervention. Je suis fier d'avoir exercé mon pouvoir, entre guillemets, pour faire changer les choses. Selon son père, Jean-François Hamel, la demande de permis a été faite à la ville et le dossier chemine. On a bon espoir de le recevoir avant le début de la haute saison touristique à Sherbrooke. On pourrait alors assister au tour de magie du jeune Jacob prochainement. Jacob peut le faire dans les rues de Québec, mais pas dans celles de sa ville, explique M. Hamel, joint par la Tribune. Il semble y avoir un problème en raison de son âge. Son fils, qui rêve de devenir magicien comme son idole Luc Langevin, a toujours été déterminé. « C'était impressionnant de le voir devant le conseil plaider sa cause, dit-il, dit son père. Avec ce qu'il a vécu à Québec, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mon gars veut faire changer les choses. » Restez avec nous, la suite avec les actualités culturelles et les sujets libres après la chanson.